C'est que je marquais un but, tous les joueurs, ils couraient derrière moi pour faire le moulon sur moi.
Le moulon?
Ouais, le moulon, ouais. Pour, quand vous marquez, ils vous courent tous derrière pour vous écraser.
Ah non, monsieur Zanin, il ne va pas revenir là-dessus. On a déjà parlé 3000 fois. Non, ça c'était juste une manifestation de joie, somme toute.
Oui, mais moi, ça me faisait peur, je n'avais pas envie d'étouffer. Alors ça m'angoissait. Je ne voulais plus marquer. Du coup, Berlusconi, il ne m'aimait pas. Il disait que j'étais un résidu de Zidane, vous savez comment il m'appelait? Résidane.
Résidane, on va consulter ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question de défenseur latéral, de causerie, de contrainte, d'hypocondrie, de l'équipe de France et même de lanterne rouge. Avec Raymond Domenech qui signe Mondico passionné du foot, un abécédaire de sa passion pour ce sport entre réflexion sur le jeu, portrait de joueur, en histoire d'enfance et retour sur les heures innocentes du football des années 70 et 80. Manu Farine.
Où l'on apprend que Raymond Domenech aime les odeurs de vestiaire, on s'en serait douté, a raté son bac pour une finale, joué dans l'Ours de Tchekhov, viré Guy Roux, et aurait été plus heureux sans l'équipe de France.
19h30, place nette à Xavier Delaporte pour sa chronique Place de la Toile. Normalement, c'est le jeudi. Eh bien, jeudi, c'est mardi pour nous. Ce soir, Xavier, au menu.
Je vais parler de votre passion, Laurent.
Le patinage artistique?
Exactement.
Ariel Dombal?
Aussi.
Parfait. Je ne suis sûr de rien.
Yann Krouf, comme vous dites. Ou José Pourigno.
C'est pas possible. Il n'y a pas de off hein, pour vous, les journalistes. C'est pas possible. On jugera sur pièce. 19h35, plateau Malade Imaginaire avec Patrice Delbourg qui publie Mots d'excuses, les mots de l'hypocondrie. Il y a un jeu de mots, on le précisera tout à l'heure. Un diagnostic en 14 points pour ce poète et papou spécialiste de la relation littérature et sport, Benoît Lagan.
Et par ce dialogue de sourds, Patrice Delbourg réinvestit son sujet 20 ans après son journal d'hypocondriaque dans des mots d'excuses. On apprend qu'il a toujours eu beaucoup d'appétit pour les résultats de football dans les pages de l'équipe. Il nous expliquera.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Zoé Sfès que l'on ouvre bien sûr avec son du jour.
La mort par empoisonnement en 2006 à Londres de l'ex-agent du KGB, Alexandre Litvinenko, très critique envers Moscou, a considérablement refroidi le climat entre les deux capitales. Moscou refuse d'extrader vers le Royaume-Uni le principal suspect dans cette affaire, Andrei Lugolboy, aujourd'hui député à la Douma.
Bonsoir Zoé Sfès.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour, mais il ne date pas d'hier.
Et oui, comme toujours, il date de la dernière visite de Vladimir Poutine en Grande-Bretagne. Et il évoque donc ce fameux Andrei Lugolboy. Lugolboy, donc ancien agent de la FSB, la police secrète russe, accusé par la Grande-Bretagne d'avoir assassiné un opposant à Poutine qui s'était réfugié à Londres. Alors non seulement Moscou refuse toujours d'extrader Lugolboy, mais en plus, il est député de la Douma. Et là, on apprend aujourd'hui qu'il va devenir consultant sur une série télévisée. Lancée en Russie, grande série lancée par le pouvoir qui doit glorifier la grandeur de la Russie, baptisée ironiquement une affaire de liberté. Cette série va justement aborder la lutte contre les grands corrompus, puisque c'est comme ça qu'est présenté, que sont présentés beaucoup d'oligarques qui ont été opposants à Vladimir Poutine, et donc aussi ce meurtre dont Lugolboy est toujours accusé, même si tout cela est enrobé dans de la fiction. Lugolboy va donc être conseiller artistique sur une série qui évoque un meurtre dont il est accusé, et il est toujours libre. Peu de chance que la Grande-Bretagne le prenne bien.
Et tout de suite, on passe au dossier du jour consacré au studio de cinéma et de télévision de Brie-sur-Marne en France. Créé par la Société française des producteurs en 1987, ces studios sont considérés par les producteurs et par les chefs décorateurs comme particulièrement fonctionnels. Et pourtant, ils vont fermer en 2015. Une pétition a été lancée pour les sauver, signée par toute la profession.
Oui, avec en tête de file des grands réalisateurs comme Michel Hazanavicius, Patrice Lecomte, qui ont beaucoup tourné là-bas. Alors pourquoi sont-ils menacés, ces fameux studios? Parce qu'ils ont été rachetés, il y a plusieurs années, par Euromédia, un groupe de prestations audiovisuelles qui exploitait donc ces studios, mais qui exploite aussi, maintenant ces nouveaux, les tout nouveaux studios de la Cité du cinéma lancés par Luc Besson. Euromédia a donc vendu le terrain sur lequel sont situés ces studios de Brie-sur-Marne à un investisseur brésilien en 2010, et donc là, ils doivent donc fermer. Et pour cela, ils avaient de très bonnes raisons, comme l'explique Gilles Chasson, directeur du développement chez Euromédia.
Pour quelles raisons, en fait, on avait annoncé notre volonté, en fait, de quitter Brie-sur-Marne? C'est simplement pour suivre nos clients, parce que nos clients s'étaient installés dans le nord de Paris, pour deux raisons. La première, c'est que là où il y avait une activité de cinéma et d'audiovisuel, c'est une accessibilité évidemment plus simple de Paris. Et la deuxième, c'est que il y avait des studios qui étaient modernes et qui convenaient parfaitement aux standards des tournages de cinéma.
Pourtant, la profession est unanime. Ces studios sont tout à fait performants et tout le monde en a encore besoin.
Oui, alors rien que cette année, ils ont accueilli les séries Versailles pour Canal+, Trépalium pour Arte, des films comme Fujita, de Kohei Oguri, beaucoup de scènes de Hunger Games, La Révolte, qui ont été tournées. Ils jouissent de beaucoup d'atouts que n'ont pas les autres studios, y compris les plus nouveaux, comme des vrais studios de pré-montage, des décors. Et surtout, c'est le seul studio à Paris qui dispose d'un stock de meubles. Pour Agnès Morel,
le seul studio à Paris, oui.
Le seul studio à Paris dans toute cette région-là, avoir des stocks de meubles, c'est quasiment en voie de disparition. Maintenant, on est obligé d'acheter des meubles. Et donc, pour Agnès Morel, qui est assistante décoratrice et membre du MAD, qui est une association de décorateurs de cinéma, la fermeture des studios de Brie-sur-Marne serait tout simplement une catastrophe.
Quand on ferme les studios de Brie-sur-Marne, en gros, pour ne pas faire de concurrence aux studios de Luc Besson, alors que ce sont des studios qui sont totalement complémentaires. D'une part, parce que déjà, Luc Besson, sur l'ensemble de ses plateaux, je crois qu'il y en a déjà deux qui sont consacrés à des expositions. La moitié du reste est consacrée à ses propres productions, ce qui fait qu'il ne reste pas grand-chose, en fait, pour les autres productions. De toute manière, ce serait catastrophique, puisque les studios de Paris ne pourraient pas accueillir l'ensemble des films qui se font actuellement à Brie. Peut-être qu'on va se retrouver, comme il y a quelques années, à travailler systématiquement dans des friches industrielles, donc qui ne sont pas chauffées, où la sécurité est plus que limite. Soit ça va partir en Belgique et au Luxembourg, soit on va se retrouver à tourner dans des conditions déplorables. Voilà.
Alors selon les professionnels, la thèse est simple, c'est uniquement pour ne pas faire concurrence aux studios de Luc Besson qu'elle exploite aussi qu'Euromédia se sépare des studios de Brie.
Oui, et d'ailleurs, quand elle a vendu ce terrain donc à cet investisseur brésilien, Euromédia a notamment ajouté une clause de non-concurrence, qui veut dire qu'il est impossible de refaire des studios de cinéma à cet endroit-là. Et là encore, c'est une catastrophe, notamment pour le maire de Brie-sur-Marne, qui a conçu tout un projet pour sa ville autour justement de l'image.
L'Institut national de l'audiovisuel, l'INA, étant aussi à Brie-sur-Marne, et on a de quoi développer, redévelopper un pôle autour de l'image. On a énormément de parking et de terrain en friche là-haut, qu'on peut requalifier pour des pépinières d'entreprise, hôtels d'entreprise, autour de l'image de demain. Et donc, moi, je suis tout à fait partisan de garder les studios. D'ailleurs, les studios sont pleins et fonctionnent à plein aujourd'hui. Il y a nécessité de rencontrer les dirigeants d'Euromédia et éventuellement les acheteurs, s'ils voulaient bien se manifester, pour qu'on enlève cette clause de non-concurrence qui aujourd'hui n'a pas de sens puisque ça bloque tout le système.
Voilà, alors c'est le maire donc de Brie-sur-Marne, Jean-Paul Spielbauer. Alors quand on demande à Gilles Chasson d'Euromédia pourquoi il y a cette clause de concurrence, il indique que c'était pour protéger les emplois des salariés de Brie-sur-Marne qui tous ou presque ont été transférés dans les studios justement de Luc Besson du nord de Paris. En attendant, la profession et tous les élus d'Île-de-France, quelle que soit leur couleur politique d'ailleurs, ont demandé l'intervention des ministères de l'économie et de la culture et attendent de pied ferme une réponse pour le début de l'année civile prochaine.
Merci Zoé, on passe tout de suite au bref.
Et l'on ouvre avec ce sondage assez surprenant réalisé en Grande-Bretagne. 26% des Britanniques jugent justifié que les marbres, qui ornaient autrefois le fronton du Parthénon, soient conservés en Grande-Bretagne, donc à peine un quart. Et 49% pensent que ces marbres doivent être rendus à la Grèce, qui demande depuis 40 ans qu'on les restitue. Un sondage qui intervient alors que le débat donc, sur cette restitution fait de plus en plus rage dans le pays.
Le Maroc va se doter d'un réseau de centres culturels à l'étranger.
Le but, favoriser la préservation de l'identité nationale de l'importante diaspora marocaine évaluée à 5 millions de personnes, dont une grande majorité en Europe. Ces centres culturels nommés Dar El Maghrib, Maison du Maroc, verront le jour dans des capitales dont les pays accueillent une forte communauté marocaine. On n'a pas encore de chiffres sur le budget.
Disparition du designer et artiste français Pascal Mourgue.
Il est mort à 72 ans ce samedi d'une embolie pulmonaire. Né en 43, il fut l'un des précurseurs du design industriel des années 70 et a collaboré pendant sa carrière avec de nombreux éditeurs en France et à l'étranger, parmi lesquels Fairmob, Sina, Cassina ou même Knoll.
Et la dernière ?
Et la dernière, alors la dernière, c'est une histoire qui va vous ravir, Laurent, mais aussi vous, mesdames, enfin nous en fait, Manu, vous et moi, car c'est un grand retour extrêmement attendu, le retour du concours Mister France. Et oui, un concours en sommeil depuis 2011.
Ça le nous concours, ravit, nous aussi.
Voilà, ça nous ravit tous. Donc voilà, va y avoir une nouvelle organisation, un nouveau mode de fonction finalement. Casting national ouvert à tous les hommes de 18 à 25 ans. Malheureusement, 35 ans, pardon, ça pourrait presque vous concerner, mais en fait,
comme
non.
Comme elle est gentille.
Voilà. C'est fait donc en partenariat avec le magazine Public, rien que ça.
Ouais,
la finale du concours Mister France va se dérouler donc le 13 janvier au théâtre La Bruyère Opéra Paris. Elle sera retransmise, rien que ça, sur Énergie 12. Un vote 100% public va désigner 3 des prétendants qui seront inscrits et les autres seront choisis par un comité créé par les organisateurs, à la tête duquel il y aura donc un jury exclusivement féminin présidé par la délicieuse Clara Morgan. Voilà, je cite les termes du communiqué. Ambassadeur de la French Touch, Mister France sera l'homme idéal, un homme responsable avec des projets, des idées à partager pour devenir le représentant d'une génération ambitieuse, énergique et volontaire. Alors si vous êtes tenté par l'aventure, il faut absolument s'inscrire sur www.mister-france.com. On précise que tout cela, ça doit être représentatif des diversités physiques et régionales. Je trouve ça magnifique.
Et l'homme idéal, il ne peut pas avoir, il peut pas être entre 18 et 25 ans.
Ça, c'est non, 18 possible. Et 35 ans.
Ah, et 35 ans.
Même.
La force de l'âge. C'est vous, en fait, c'est... messieurs.
C'est ben ça. Voilà, c'est ça. C'est
dans
nous,
un
la force de l'âge.
Situé entre 40 et 60 ans.
Plateau sécateur avec vous, Raymond Domenech, ancien joueur de football au poste défenseur latéral, sélectionneur de l'équipe de France de football avec 3 phases finales à votre actif. Ça, c'était de 2004 à 2010. En 2012, vous aviez publié un premier livre en forme de mise au point sous le titre « Tout seul ». Et aujourd'hui, c'est votre dico passionné du foot, toujours chez Flammarion. Alors, sur la couverture du premier, vous étiez là, sur fond noir, regard dur et visage fermé. Sous la couverture du second, fond bleu ciel, grand sourire. Ça va mieux ?
Je pense que oui, c'était volontaire, parce que ça traduit vraiment le bouquin. Il y en a un, c'était quelque chose de tendu, de fort, ou qui a fini d'une manière un petit peu presque tragique par rapport au niveau du football. Et je me suis débarrassé de ça, voilà, et le soleil est revenu, le ciel bleu est revenu, je peux sourire, je peux parler d'histoire, des bêtises qu'on faisait, nous, dans le foot, à 20 ans, C'est vraiment de deux mondes différents. Je voulais vraiment que ça soit différent. Et quand on a choisi la photo, j'ai dit, ouais, vraiment, voilà, c'est vraiment ce que je veux. C'est quelque chose qui montre une vraie différence.
Alors, vous revenez évidemment sur vos souvenirs de joueurs, vos débuts d'entraîneur, vos mentors. Le boucher de Lyon, ça, c'était votre surnom comme joueur, mais vous préférez le terme de sécateur. Qu'est-ce que ça dit, les deux termes, hein, en fait, les deux expressions, qu'est-ce que ça dit du joueur que vous étiez dans les années 70 et 80, Raymond Domenech ?
Mais je n'étais qu'un joueur, je dirais, banal.
Pour être le boucher de Lyon, on passe
par ça.
Non, mais ça, j'en parle,
oui,
je dis
exactement.
Souvent.
Il y a une méprise là-dessus.
Les réputations, pourquoi elles existent et pourquoi elles restent ? Parce qu'on dure dans le métier. Les gens qui se sont arrêtés, qui ne sont pas devenus entraîneurs, on a oublié qu'ils étaient des bouchers pires que moi. Et qu'à l'époque, être boucher, c'était être tout à fait normal quand on était défenseur. C'était l'expression courante. Le mot sécateur était plus particulier parce que c'est un vrai terme technique. C'est-à-dire qu'il y a une jambe qui vient, qui tacle un petit peu le ballon, et la deuxième doit ramener tout ce qui dépasse, quoi. C'est un vrai geste technique qu'il faut travailler. Ça ne s'improvise pas. Donc c'est pour ça que je préfère le second.
Patrice Delbourg ?
Oui, l'hypochondriaque dirait que le sécateur, c'est celui qui fait du petit bois entre le binôme tibia-péroné.
Et le boucher ?
On prenait la cheville avec. Hein.
Oui, je peux imaginer aussi la malléole.
Manu Farine.
Alors vous consacrez, Raymond Domenech, une entrée du dictionnaire au tir au but, notamment. Hein. Un exercice auquel vous avez beaucoup échoué. Comment est-ce qu'on gère, comme entraîneur, une séquence qui pose problème comme joueur ?
Je peux juste changer le truc. Je n'ai pas échoué parce que ce n'est pas moi qui les ai tirés.
Bah,
c'est l'équipe. J'en ai aussi raté. J'ai raconté ce que personne ne peut imaginer et savoir. Dans quelle situation on se retrouve quand on tire un pénalty ? Quand c'est une élimination directe, qu'il y a la pression du public, qu'on a fait déjà 2 heures de jeu, qu'on est fatigué, qu'on est à l'extérieur, qu'il y a une pression énorme. On arrive, moi je me souviens, j'ai posé le ballon et je dis, je me suis réveillé, j'ai entendu l'arbitre me dire un mot et je me suis réveillé, j'ai pris mon élan, je me suis réveillé, le premier pénalty que j'ai tiré en Coupe de France et que j'ai raté, et je me suis réveillé avec les bruits du public. Et entre-temps, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est exactement comme quand on a pris une bonne biture et qu'on ne sait plus du tout où on est et qu'on se réveille à un endroit alors qu'on était rentré dans un bar un soir et le lendemain matin, on est devant chez soi parce que les copains nous ont ramené. Cette pression-là, quand on tire un pénalty, ça arrive parce que c'est facile un pénalty. Hein. 111 mètres, le gardien de but, le temps qu'il aille sur un côté ou l'autre, le ballon peut le mettre n'importe où, à n'importe quel endroit. À l'entraînement, on peut le tirer tant qu'on veut, il n'y a pas de souci. C'est un vrai exercice psychologique. Et il n'y a pas de règles. dans la psychologie, il n'y a pas de leçon, il n'y a pas de règle. C'est le moment. Comment on est à ce moment-là? Dans quelle situation on est? Je dis, j'ai perdu la finale du championnat d'Europe avec les espoirs. On avait 5 tireurs de pénalty. J'avais fait 3 changements. Il me restait plus que 2 joueurs qui devaient tirer les pénaltys. Et ces deux-là, il y en a un qui m'a tourné la tête et l'autre qui a dit « Coach, j'ai mal ». Plus personne ne voulait les tirer. Il a fallu qu'on trouve des gens. Mais les gars, il faut y aller. On peut pas, on s'en va pas comme ça. Voilà, on a perdu au pénalty. Mais c'était évident qu'on allait perdre parce que psychologiquement, ils avaient perdu. Donc c'est un vrai combat psychologique contre la situation, le gardien de but. C'est pour ça que j'aime les pénaltys. J'ai pas gagné souvent, c'est vrai. J'ai tout essayé, hein, pourtant. Toutes les formules, toutes les méthodes d'entraînement, de préparation. Je raconte un petit peu dans le bouquin, c'est vrai que c'est pas évident.
Alors, votre club de presque toujours, comme vous dites, c'est l'OL, le Lyon, celui de votre enfance. L'OL, c'est là que vous démarrez en pro, c'est le club que vous allez entraîner. Et c'est là que vous êtes interviewé un jour de 1971. On est en juin, on écoute.
Raymond Domenech. Raymond Domenech qui, lui, a d'autres soucis. Il prépare son bac et je crois que les deux comptent. Hein, la finale, et la... mais enfin, qu'est-ce qu'il prend dessus?
La finale compte plus quand même. Hein? Je prépare plus la finale que le bac.
Vous nous impressionnez, vous êtes junior, vous avez 19 ans. On a l'impression que on vous donnerait n'importe quel adversaire. Ce serait la finale de la Coupe du Monde, vous seriez toujours aussi calme.
Ah, toujours pareil, oui. Normal, comme ça, je suis pas mes moyens.
Bon espoir pour demain?
Bon espoir, c'est dans la poche.
Pas vraiment. Le jour suivant, comme vous l'écrivez à la lettre B comme bac dans le dictionnaire, vous ratez votre bac puisque vous ne vous présentez pas et vous perdez la finale de Coupe de France au Stade de Colombes contre Rennes. Des regrets a posteriori?
Oui, le regret de ne pas m'être retrouvé dans une structure comme le sont les joueurs à l'heure actuelle.
Parce qu'aujourd'hui, ça ne pourrait pas se passer comme
ça. Non, ça ne pourrait pas. On ne laisserait pas un joueur de 18-19 ans ne pas aller passer son bac, même s'il y a une finale. Ça serait décalé, ça serait aménagé. Se dire, c'est rien, passer un bac, c'est rien d'extraordinaire, mais ça ouvre la porte après à d'autres choses. Je pense qu'après, j'aurais pu m'inscrire en fac. Et on perd le fil, on est dans un autre monde, on n'a pas besoin de ça. Mais je trouve qu'il manque quelque chose. Après, c'est une ouverture. Ça permet une ouverture. Donc je regrette de ne pas avoir eu cette organisation, cette structure. On était livrés à nous-mêmes à l'époque. Moi, je n'ai pas fait de centre de formation. Je suis devenu pro parce que l'entraîneur m'a demandé de venir à l'entraînement un jour avec les pros, tout simplement, pendant les vacances. Et j'ai pris la place. Maintenant, c'est programmé. On sait à peu près à quel moment, quand. On a une vraie organisation. Nous, ça venait comme ça. Celui qui passait, il passait.
Mais nous?
Pour ceux qui, comme nous, ont eu la chance de voir l'image, on vous y voit lors de cette interview avec votre très belle moustache.
Hein,
moustache
très magnum.
Moustache à laquelle vous consacrez aussi une entrée dans le dictionnaire. Qu'est-ce que vous vouliez incarner avec elle, hein, avec cette moustache, Raymond Domenech?
C'était la mode à l'époque. J'en parle dans le bouquin, je dis il y a des modes. Maintenant, c'est la mode du parasé ou barbe un peu juste.
Il y a des audaces capillaires.
Voilà, on essaye plein de trucs. Oui, chaque période, sa mode, j'étais pas le seul. Si vous reprenez toutes les photos des Panini de cette époque-là, vous verrez des moustachus, y en avait des wagons. Hein. Mais c'est vrai que moi, ça me donnait l'impression d'être plus méchant, plus agressif. Je défendais mon camp, donc à la gauloise, quoi. C'était « viens, tu vas voir ». Voilà, c'était un petit peu ça, c'était un rôle de théâtre.
À la gauloise, oui. Manou.
Vous vous attardez sur quelques-uns de vos héros des années 60, hein, plutôt. Je pense à Rambert, attaquant, Skoblar, buteur yougoslave. Pas de héros à votre poste, à vous?
De défenseur latéral?
Non. En fait, je ne les voyais jamais, ceux-là. Ils étaient reposés, ils étaient de l'autre côté du terrain et... Non, souvent quand on est joueur, ceux qui nous marquent sont les attaquants. Surtout quand on les rencontre et qu'on joue contre eux. Et je parle de Josip Skoblar, même si je l'ai haï, si j'avais pu le couper en deux, je l'aurais fait. Mais
à cette époque-là,
oui, à cette époque-là, mais j'ai jamais pu. Je veux dire, c'est aussi ça le profil des grands joueurs, c'est qu'ils sont rarement touchés, rarement blessés, on ne peut pas les attraper, et qu'ils marquent quand même des buts. Donc voilà, je dis bravo, bravo. Après, quand on n'est plus joueur contre eux, on applaudit, parce que c'est ce qui nous fait, nous aussi, joueurs, rêver. Moi, j'ai rêvé avec la triplette, Dinalo, Chiesa, Lacombe. Des fois, on était derrière, on les regardait jouer, ça allait à 200 à l'heure. C'était extraordinaire. Ce qui se passait sur le terrain, voilà, on peut être admiratif de joueurs. À mon poste, non, j'ai un côté prétentieux qui fait que...
Vous étiez le seul.
Voilà, il n'y avait que moi, c'est vrai.
Patrice Delbourg, vous, quels étaient vos héros? Peut-être pas dans les années 60, ou peut-être même d'ailleurs parmi les joueurs.
Fleury-Dallot. Le Petit Prince de Gerland était un de mes héros, bien sûr. Masnagetti à Valenciennes. Mais moi, j'ai toujours aimé plutôt les petits clubs, les perdants, les lanternes rouges. Mes équipes Fagnon, c'est Sedan, par exemple. Laval, voyez. J'aime pas trop les équipes qui gagnent. Donc, j'étais servi avec l'équipe de France.
Manu Farine.
Vous avez évoqué rapidement le théâtre tout à l'heure, Raymond Domenech. Et c'est vrai qu'on connaît votre goût du théâtre. Et c'est aussi, curieusement, ce qui va vous aider à Mulhouse, comme entraîneur, quand vous démarrez, à mettre au point vos causeries, c'est-à-dire les discussions à quelques heures du match avec les joueurs. Pourquoi est-ce que vous aviez besoin d'aide, hein, et qu'est-ce qu'une telle séquence, c'est-à-dire celle de la causerie, représente pour vous?
Moi, je me suis tellement ennuyé dans ces causeries quand j'étais joueur. Une fois, deux fois, bon, on n'avait pas besoin de me répéter 50 fois qu'il fallait que j'empêche l'adversaire de passer, et quand j'avais le ballon, j'essaye de ne pas le perdre et que j'attaque. Voilà, pour moi, c'était basique, il n'y avait pas besoin de ça. Et je me dis, je vais pas ennuyer les joueurs comme je me suis ennuyé parfois à la longue, parce que quel que soit le talent de l'entraîneur, la causerie, au bout d'un moment, bon, on la prend.
Alors comment vous voulez
répéter, répéter, répéter. Moi, j'ai intégré les joueurs. Je les testais surtout avec les espoirs. Et je les faisais parler, eux. J'essayais de leur dire, je les envoyais au tableau eux-mêmes. Alors que normalement, on est là, en face, et puis on leur dit, voilà, je veux ça, je t'ai dit ça, l'entraînement, on fait ça. On fonctionnait à l'envers. Et la question que je leur posais, je dis, écoute, moi, je sais ce que je t'ai dit. Je ne sais pas ce que tu as compris, mais tu vas l'expliquer, puis tu vas l'expliquer aux autres. Comme ça, je saurai si tu as compris ce que moi je t'ai dit, et les autres vont essayer de te comprendre. Et comme ça, on essaiera de faire une équipe qui tienne la route avec des gens qui se comprennent. C'était au départ compliqué, parce que je le dis, l'éducation, notre système éducatif fait qu'on n'est pas habitué à ce genre de truc. À prendre la parole, à s'imposer, à discuter, à donner son avis. On est là, tu écoutes, c'est comme ça, tu fais ça, et tu prends, et tu absorbes, et tu manges. C'était un petit peu ça. Ça a été compliqué, et puis après, c'était d'une richesse. Il fallait que j'avance les causeries, parce qu'on n'avait plus de temps. Et eux voulaient en refaire. Il y avait celle d'avant-match et celle d'après-match. Où vraiment, c'était une vraie, vraie richesse. Et chaque fois que je vais dans les clubs, je leur dis, allez-y, allez dans ce sens-là. Les joueurs, vous aurez des difficultés au début, mais vous verrez. À la fin, ils vous le rendront bien.
Patrice Delbourg, sur ce sujet des causeries, je vous voyais sur le point d'intervenir.
Non, mais les mots, c'est important. Les mots, le corps, les mots, l'effort. Et moi, ce que je vis actuellement avec le football, c'est une absence de mots, une absence de culture, une absence d'expression, une absence de ferveur, une absence de panache. Et ça, c'est là où j'en veux un peu à Raymond Domenech, c'est que j'ai l'impression que cela date de 4 ans, cette espèce d'affaissement de la parole du football. Mais c'est lié aussi à certains joueurs.
C'est lié à beaucoup de choses. Et, vous savez, quand vous avez deux journalistes, vous pouvez répondre et avoir des questions intelligentes et des réponses qui vont permettre de développer quelque chose. Quand vous en avez 50 à la sortie d'un match, oui, qui vous tendent tous le micro comme ça et qui vous disent « Alors !» Moi, c'est ce qu'ils me faisaient à la fin.
Il n'y a même pas de questions.
Ah, ils ne posaient même pas de questions. Ils nous tendaient le micro. « Alors ?» Comment c'était ?
Bien sûr.
Et qu'est-ce que vous allez leur dire, là ? C'est au bout d'un moment, on prend, et tout le monde prend le même langage. Vous écoutez les causeries, pas les causeries, les questions qu'ils leur posent à la mi-temps des matchs. Moi, j'aimerais à nouveau être joueur pour répondre à ces questions stupides. Et alors, vous avez fait un bon match ? Non, non, on est nul, c'est une catastrophe. Voilà.
Quand il n'y a pas de question, on ne peut pas répondre.
Et complètement. C'est-à-dire, la richesse d'une réponse vient de la question. Alors, quand on accuse le joueur, moi, je dis, regardez un petit peu quelles questions on leur pose. C'est quand même dramatique.
Oui,
enfin, oui,
parce qu'ils les prennent pour des bonnets. Donc, ils posent des questions de bonnets et on a que des bonnets.
Ils le sont.
Xavier Delaporte.
Oui, non, mais je voulais revenir sur la question de la causerie parce que quand on regarde, nous, en tant que personnes extérieures, on a très peu de documents sur les causeries. Les seuls qu'on ait, c'est quasiment les yeux dans les bleus. Quoi. Voilà, où on a eu des causeries filmées. Et alors, moi, j'étais extrêmement impressionné par les causeries d'Aimé Jacquet, qui étaient des magnifiques exercices de rhétorique et qui servaient à bien autre chose que ce que vous nous dites, c'est-à-dire à savoir placer les joueurs et leur dire qu'est-ce que tu vas faire, etc. C'était des exercices d'émulation avec vraiment de la rhétorique, pour le coup, très à l'ancienne, etc. Lui a raconté comment il s'inspirait des causeries d'Albert Batteux qu'il avait lui-même écouté en tant que joueur. Et il y a quelque chose là-dedans qui élève au-delà. Et je me disais, est-ce qu'on peut vraiment remplacer ça par simplement un exercice d'expression partagé entre joueurs.
J'ai pas dit que c'était simplement ça. Je veux dire, il y a des moments, le cœur de la causerie, c'est de dire, est-ce que les joueurs sont capables de reproduire sur le terrain ce qu'on a travaillé toute la semaine à l'entraînement ? Pour ça, il faut qu'ils l'aient compris. Après, le langage qu'on peut utiliser, il touche les uns et les autres. Parce que ce que vous avez vu, c'est ce que donne l'entraîneur. Ce que vous n'avez pas, c'est ce qu'ont reçu les joueurs. Parce que j'ai été joueur, et je peux vous dire qu'on est 16 ou 22, mais il n'y en a pas un qui prend la causerie de la même manière. Il l'entend chacun, les mots, et je l'ai testé, je vous assure. J'en parle aussi dans le bouquin. Ouais. Je l'ai fait, et je me suis retrouvé dans un bar avec deux joueurs, mon gardien de but et mon capitaine. À la fin, après un match, je leur ai demandé, j'ai dit, mais j'ai vu ce qui s'était passé dans le match, apparemment ce n'était pas tout à fait ce qu'on avait fait, ce qu'on avait dit. Je dis, mais expliquez-moi, là, je vous ai dit quoi à la causerie ? Le gardien de but, il me dit juste un truc. Et pourtant, je faisais le truc à l'ancienne, avec les mots, les valeurs, le combat, tout ce qu'on peut pour essayer de développer la technique, l'organisation. J'avais bien, tout était préparé dans le style de à l'ancienne. Et le gardien de but, il me dit, ah, moi, j'écoute les premiers mots, comme vous me parlez de moi, vous commencez par moi, j'écoute, et puis il faut que ça soit agressif. Il ne m'a pas dit quel mot, il m'a dit, il faut qu'il y ait un ton agressif. Quand il y a un ton agressif, moi, j'ai fini. Je me mets dans ma bulle, et j'entends plus rien, je sais plus, après, je m'en fous, c'est plus mon problème. Bon. Et le capitaine, lui, me dit, bah, vous nous avez dit qu'il fallait bien jouer, qu'il fallait pas perdre le ballon, qu'il fallait bien défendre. Je lui dis, tu te moques de moi, là. Tu te fous de moi. J'ai parlé pendant une heure, et t'as retenu ça. C'est à partir de là où je me suis posé réellement des questions sur la causerie. Donc il y a ce qu'on croit donner, ce qu'on veut donner, et ce qui est perçu. Et ce que, pour revenir à ce que vous dites tout à l'heure, entre la perception d'une génération, d'une certaine époque qui était habituée, et puis d'une nouvelle génération qui, depuis l'âge de 13, 14 ans, entend les mêmes causeries, les mêmes trucs, et qui en ont... Il faut trouver autre chose. Il faut varier aussi. Il faut s'adapter aussi aux gens. Et ne pas, surtout ne pas généraliser.
Alors tout à l'heure, Manouf faisait référence au fait que c'est le théâtre qui vous a amené à concevoir vos causeries, notamment à Mulhouse. On connaît cet amour pour le théâtre que vous avez pratiqué en amateur. Vous avez joué dans L'Ours de Tchekhov, La Leçon de Ionesco. De quoi rêviez-vous quand vous faisiez ce théâtre-là, Raymond Domenech ?
À rien. Je trouvais un bonheur, un plaisir. Je trouvais une. Je me détachais du foot. Je me détachais du milieu du foot. J'ai trouvé un endroit où les gens ne savaient pas ce que c'était que le foot.
Ça, je peux vous le garantir.
Non, mais c'est vrai.
Moi-même.
Non, mais mais quand vous êtes baigné, moi, depuis l'âge de... Depuis que je sais marcher, je vis dans le foot. Je suis autour de moi, il y a des gens qui me parlent du foot. Je vais dans un repas, on me parle du foot. Quoi que je fasse, ça revient c'est comme le metteur en scène, on va lui parler de ses films. Et tout le monde vit dans son milieu. Là, j'ai changé de milieu, tout d'un coup. J'avais passé la frontière, et je me suis retrouvé avec des gens qui me disaient... qui m'appelait Raymond. J'étais pas entraîneur, j'étais pas joueur, j'étais rien du tout. J'étais un mec qui faisait du théâtre avec eux, tranquillement. C'était une respiration extraordinaire.
Et pourtant, le théâtre va s'arrêter. Il va y avoir un fiasco total à Nice sur lequel vous ne vous étendez pas. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Si, je dis que c'est un fiasco parce que...
Ah oui, mais qu'est-ce qui s'est passé ?
C'est déjà oui, pas mal bah, c'est de déjà reconnaître.
Pas mal. Hein. Oui, non, mais bien sûr.
Je veux dire, parce qu'on a... C'était pour les Jeux... De la francophonie, je crois, on nous avait demandé, parce que je travaillais dans une troupe de théâtre avec Stéphane Tournu-Romain, c'était du théâtre éducatif, qui est une super opération, qui marche très bien, où on a des gamins toute la semaine, pendant 4 jours, les profs, les entraîneurs nous les amènent, on les garde, et ils travaillent sur un texte. Et nous, on a des rôles pivots, où les gamins peuvent, eux, s'accrocher là au milieu. Et on devait faire cette représentation en français. Mais ils voulaient nous faire ça avec un public qui était un public international, avec des Espagnols, des Tchèques, de tous les pays. Et on devait passer à 8 heures. Mais comme les politiques ont fait tellement de discours, on est passé à 10 heures et demie. Ils n'avaient pas mangé. Donc ça a duré 5 minutes. Quand ils ont cru que c'était fini, ils ont applaudi, on va manger, on s'en va. Et nous, on est arrivés derrière pour faire la pièce. Ben, on a pu faire même pas... On a fait une demi-heure. Après, je dis, on arrête, c'est pas la peine. Je comprends, ça n'a aucun sens. Voilà. Donc j'ai arrêté là-dessus. Mais c'était grandiose.
Alors, comme à tous nos invités, on vous a demandé d'apporter un son qui vous a marqué. Et voici ce que vous avez choisi, Raymond Domenech.
Je vous ai compris. Je sais ce qui s'est passé ici. Je vois ce que vous avez voulu faire. Je vois que la route que vous avez ouverte en Algérie, c'est celle de la rénovation et de la fraternité.
Identification de ce son, même si on l'aura reconnu. Et pourquoi vous l'avez choisi, Raymond Domenech ?
Parce qu'il a marqué mon enfance. Il a marqué mon enfance. J'ai eu de la famille qui vivait en Algérie depuis 4, 5 générations, qui était installée là-bas. Pour eux, c'était... Je ne sais pas, c'était leur pays, c'était leurs racines. Ils étaient là-bas et tout d'un coup, pouf, ils ont été obligés de partir. Ils ont été obligés de partir, de prendre le bateau, d'arriver. Et donc, on a vécu avec eux. Ils sont arrivés sur Lyon et j'ai côtoyé ça, cette forme d'incompréhension. Pour eux, c'était pas la France qui était là-bas, c'était eux. Et c'est un petit peu la différence entre ce problème des nations, des pays. La France n'a rien à faire en Algérie, c'était pas, ça ne nous appartenait pas, on est tous d'accord. Mais les gens qui avaient, depuis 3-4 générations, construit leur vie, vécu là-bas, ça aurait pu se passer autrement. Parce que là, c'était une entourloupe totale. Je veux dire, ce qu'on leur a expliqué, ce n'était pas ce qu'ils avaient compris. Quoi. Sur ce qu'eux nous ont raconté, ce n'était pas ce qu'ils entendaient. « Je vous ai compris » ne voulait pas dire la même chose pour tout le monde. Et eux ont souffert de quitter un pays qu'ils aimaient, une région qu'ils aimaient, des gens même avec qui ils vivaient, où ça se passait bien. Ça aurait pu mieux se passer, on aurait pu prendre le temps d'en faire quelque chose et de rendre l'indépendance aux Algériens ce qu'ils méritaient et ce qu'ils voulaient, mais sans tout ce qui s'est passé.
Le rendez-vous, la chronique.
Raymond Domenech et Patrice Delbourg, on vous retrouve dans quelques instants, mais tout de suite, c'est la chronique Place de la Toile de Xavier Delaporte en partenariat avec Rue 89, dont il est le rédacteur en chef. Ce soir au programme...
Ce soir, j'ai parlé de football. La semaine dernière, j'ai eu la chance de déjeuner avec deux grands entraîneurs de football. Ils sont pas vieux et pourtant, à eux deux, ils ont gagné un nombre incalculable de coupes et de championnats, et pas simplement en France. Ils ont gagné plusieurs Ligues des Champions et même des Coupes du Monde des clubs. Alors, ils m'ont raconté la passion qui les anime, ils m'ont raconté leur goût pour la tactique, la mise en place des schémas élaborés à base de permutations, de glissements, de couvertures de zone. Ils m'ont dit à quel point ils aimaient se repasser les actions et les buts qui résultaient de l'exécution parfaite par leur équipe de ces schémas qu'ils avaient pensé et mis en place. Ils m'ont raconté le soin apporté à la constitution de l'équipe, aller récupérer dans un championnat étranger le briscard d'évaluer sur qui plus personne ne compte, mais qui va solidifier l'équipe, alors dénicher le petit jeune qu'on va intégrer progressivement à son effectif, saison après saison, jusqu'à ce qu'il brille en équipe première et remplisse toutes ses promesses. Et ils m'ont dit aussi les heures passées à consulter les bases de données du joueur, parfois des petites divisions pour trouver celui qu'on cherche, la consultation de milliers de fiches de joueurs rédigées par des observateurs passant leur week-end sur les terrains du monde entier. L'un m'a dit qu'il avait pleuré quand un joueur qu'il avait fait venir à 14 ans dans son club, qu'il avait couvé pendant 4 ans, qui était en train d'approcher l'excellence, avait été acheté par Manchester United. Il avait pleuré de rage en ne pouvant pas s'aligner sur le montant astronomique que le club anglais proposait à son président. Et c'était intéressant parce que ces deux entraîneurs n'avaient pas la même vision du métier. L'un a plutôt une préférence pour les clubs avec une histoire, mais presque oubliée. Le RC Strasbourg, d'ailleurs, vous avez joué pendant 5 saisons. Il aime les prendre en main quand ils végètent dans des divisions inférieures, les faire remonter saison après saison jusqu'au sommet avec une gestion à long terme, prudente. L'autre aime les grands clubs, les clubs à attention, avec de l'argent, des gros effectifs. L'un ne va pas au clash, il a l'écoute de ses joueurs, il négocie. L'autre, au contraire, passe en force, impose ses idées. Mais ce qui les réunit, c'est l'idée du jeu. Où il y a une efficacité, enfin il y a une question d'efficacité certes, mais il y a aussi la réalisation d'un projet stratégique. L'un m'a expliqué qu'un jour il avait, je le cite, « vu la matrice ». Il avait compris comment ça marchait le foot. Il a vu comment il fallait faire une sorte d'illumination. À l'époque, il entraînait la Lazio de Rome en Italie. Il a mis en place un schéma qui correspondait parfaitement à son effectif. Il a tout gagné. Doublé Coupe Championnat, puis Ligue des Champions, puis Coupe du Monde des clubs. Un moment de grâce complètement inégalé. L'un et l'autre m'ont dit à quel point il est difficile de faire concilier cet engagement dans leur passion avec leur vie privée. L'un m'a dit qu'il était content parce que sa femme là partait quelques semaines. Il pourrait enfin se consacrer entièrement au jeu et à ses joueurs. L'autre m'a expliqué qu'il avait choisi sa nouvelle amoureuse pour son goût du foot uniquement. Enfin, il en avait trouvé une. Ça avait l'air de le soulager. Alors, je les écoutais. Bien sûr, je les trouvais un peu bizarres, mais ils parlaient assez bien de leur passion et ils m'émouvaient. Ces deux entraîneurs, en fait, n'en sont pas au sens strict du terme. L'un, c'est juste un dingue de foot et l'autre, c'est un urbaniste, mais tous les deux, ils jouent à un jeu qui s'appelle Football Manager. Un des jeux vidéo les plus connus. les plus vendus et sans doute les plus impressionnants, un jeu qui vous met dans la peau d'un entraîneur de foot et dont la version 2015 vient de sortir. Ce jeu impressionne notamment parce que sa base de données de joueurs, et là je parle de joueurs réels, parce qu'on peut jouer avec des joueurs réels évidemment, est tellement fournie, enrichie par de fans du monde entier qui ajoutent les joueurs de petits clubs en collectant la statistique sur le bord des terrains pendant toute la saison, que certains clubs passent désormais des contrats avec les éditeurs du jeu pour les aider à recruter leurs propres joueurs dans le réel. Vous êtes entraîneur d'un vrai club, vous cherchez un arrière-gauche droitier qui aime repiquer au centre, qui soit bon de la tête et qui n'ait pas plus de 25 ans, et bah pof, Football Manager vous en fournit. En les écoutant tous les deux raconter le foot, je me suis dit plusieurs choses. D'abord, c'est incroyable comme ils sont plus intéressants que la plupart des vrais entraîneurs que j'ai pu entendre et interviewer. Et en les écoutant, en écoutant le récit de leurs émotions, hautes et basses, je me demandais pourquoi, si le jeu vidéo rendait tout cela possible, pourquoi s'infliger de le vivre dans le réel ? Et doubler toutes ces émotions de leur caractère public. Je me suis dit, en les regardant partir tous les deux, après le déjeuner, que j'avais rencontré sans doute les deux seuls entraîneurs heureux au monde.
Raymond Domenech, une réaction à ce que vous venez d'entendre ?
Moi, juste dans les bases de données, est-ce qu'il y a un rapport sur l'aspect psychologique du joueur ?
Oui, il y a aussi plutôt teigneux, plutôt
celui... souple. Non. De sa relation à l'autre.
Ah non.
Parce que dans la semaine, l'autre, il a croisé sa femme, il l'a regardé de travers et qu'il a voulu le taper à l'entraînement. C'est marqué, ça ?
Non. Et on sait que certaines équipes...
Mais c'est dommage, parce que voilà, c'est quand même l'essentiel de la gestion. Le reste, c'est des bases de données. Vous pouvez faire des bases de données que vous voulez, mais l'humain, vous ne pouvez pas le mettre. Vous ne pouvez pas le mettre là-dedans. La relation des uns avec les autres, ce qui s'est passé le matin. C'est quand vous êtes entraîneur, vous arrivez le matin, vous dites bonjour aux joueurs, vous regardez, vous serrez la main, vous regardez dans les yeux. Et puis vous savez qu'il y en a un là, il a un problème. Et il va vous le montrer à l'entraînement, il a un problème, quelque chose qui ne va pas. Tout ce que vous allez essayer de mettre en place, ça va foirer parce que l'autre, il n'y est pas. C'est-à-dire que si vous n'anticipez pas, si vous ne réglez pas le problème, ça va durer. Si c'est un problème individuel, tout va bien. Si c'est chez lui, déjà c'est plus compliqué. Et si c'est avec quelqu'un du groupe, ça devient très très compliqué. Et ça, il ne peut pas y avoir d'entraîneur heureux parce que tous les jours, ils vivent sur le qui-vive. Ils sont là en permanence, dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va arriver. Les deux vôtres, je comprends, hein. C'est facile ça. Moi j'en rêverais, bah, effectivement, hein. Mais ce n'est pas la vie.
Plateau hypochondriaque avec vous, Patrice Delbourg, écrivain, poète. Vous signez aujourd'hui « Mots d'excuses » co-signé avec Gérard Pusset au Cherche Midi éditeur. Et vous êtes membre régulier éminent des Papous dans la tête, l'émission dominicale de France Culture qui vient de célébrer son 30e anniversaire. Donc au Cherche Midi vient de paraître « Mots M-A-U-X d'excuses » sous-titré « Les mots M-O-T-S d'hypochondrie ». C'est un dialogue co-signé avec l'écrivain et critique littéraire Gérard Pusset. Or, en 94, donc il y a 20 ans exactement, vous aviez écrit « Vivre surprend toujours, jour journal d'un hypochondriaque ». Qu'est-ce que cette reprise thématique vous dispensait au sens médical du terme ?
Ça me montrait que j'étais devenu un hypochondriaque défroqué, que maintenant, ayant écrit sur le sujet, ayant engendré quelques enfants, ayant été vraiment malade, c'est-à-dire c'est une faute professionnelle pour l'hypochondriaque d'être malade, bon... je me suis aperçu que je pouvais faire un bouquin beaucoup plus distancé sur le même sujet. Il faut dire aussi que l'éditeur était partant, parce qu'il y a 20 ans, être hypochondriaque, c'était comme avoir la petite vérole, ou c'est des choses dont on ne parlait pas. Aujourd'hui, on vient se prélasser sur le canapé rouge de Drucker pour parler de son hypochondrie.
À quelqu'un qui l'est lui-même.
Oui, à quelqu'un qui l'est lui-même et qui est ravi.
De l'être.
Et qui est ravi de l'être.
Et d'en parler.
Et qui,
comme
et,
vous.
Voilà, et chacun monte ses photographies, ses scanners, ses IRM. Éventuellement, on peut sortir son taux de créatinine ou de PSA, c'est magnifique. Donc les rendez-vous du dimanche à la télévision sont devenus des rendez-vous de grands malades. Et ça change un petit peu. Jadis, avec Marcillac, Raymond Marcillac, c'était très, très différent. Il n'y avait pas des choses comme ça le dimanche après-midi.
Benoît Lagan.
Alors au rendez-vous, comme dans les Papous, on a un petit jeu, celui d'examiner de près dans chaque livre de nos invités ce qu'il y a au centre du livre. Et ce qu'il y a au centre du livre, ce serait son inconscient. Et au centre de votre livre, Patrice Delbourg, on trouve le titre du chapitre « Tout sur nos mères ». C'est le 9e chapitre.
Vous voyez que ça marche.
Et voici ce que vous répondez à Gérard Pusset, je vous lis. Vous dites « maman » avec de l'émotion courtoise dans la voix. Je dis « ma mère », maxillaire serré. L'histoire n'a pas été la même. Ma conceptrice, qui très tôt m'a légué la patate chaude, n'a jamais été fichue de prononcer correctement le mot « hypochondrie ». Ton truc, dit-elle. Et vous ajoutez un peu plus loin, l'ombre de mon père, parti depuis près d'une Olympiade, continue à gigoter encore au-dessus du nouveau couple névrotique que nous formons. une explication quant à leur place centrale.
Oui, comme dans le rond central d'ailleurs, c'est vrai, balle au centre. Mais c'est vrai que la mère est absolument décisive dans l'hypocondrie. D'ailleurs, le portrait robot, j'allais dire le portrait robelot d'un hypocondriaque, c'est un père démissionnaire qui s'est taillé avec une entraîneuse 20 ans avant et une mère dépressive qui passe sa vie avec un gant de toilette sur son front. C'est ça. Et quand vous voyez tous les grands dépressifs de l'histoire littéraire française, hein, de Paul Léotot à Paul Morand, passant par Oudy Berti, Beckett, des personnages chers à Raymond Domenech. D'ailleurs, je me demande comment il a pu vivre avec 11 crétins en aimant le théâtre et la poésie comme il les aime. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. Donc,
vous savez, il n'y a pas que des gens très intelligents dans le théâtre. Par exemple, Madeleine Renaud, paraît-il, était complètement idiote. En tout cas, c'est ce que disait son mari.
Oui, mais le metteur en scène Domenech avait quand même des figurants qui n'étaient pas très, très brillants, quand même, je trouve. Hein. Enfin, il y en avait deux, trois. Sinon, c'était quand même des panouilles un peu affligeantes et qui continuent d'ailleurs à évoluer aujourd'hui.
Mais vous avez perdu le fil de votre
non,
message.
Non, pas du tout. Balle au centre, me disait monsieur. Balle au centre, c'est-à-dire c'est la mère. La mère, effectivement, est là. Tout sur nos mères. Bon, qu'est-ce que la mère, c'est elle qui vous transmet quand même la patate chaude, c'est-à-dire la douleur, c'est-à-dire le pénalty. Tout à l'heure, on parlait du pénalty. Qu'est-ce que c'est l'hypocondrie? C'est un pénalty permanent. C'est quasiment l'angoisse, justement, ce dont vous parliez, Raymond, c'est-à-dire le trou noir entre le moment où on va tirer dans le ballon et puis la bronca du public qui vous fustige parce que vous avez mis la balle à côté. Et ben, quand vous attendez une biopsie, un scanner, quand vous attendez le résultat d'un encéphalogramme, c'est ça. C'est exactement le même sentiment qu'on a dans un stade, sauf qu'on est seul, tout seul, j'allais dire.
Pour paraphraser le titre du premier livre de Raymond Domenech, tout vous êtes seul. Très fort. Très vite, le sport apparaît dès le quatrième chapitre, qui est intitulé Sprint Final. Il y a d'autres sports qui vous inspirent. Le vélo, je pense à la référence à Antoine Blondin dans les premières lignes. Oui. L'athlétisme, Zatopek, vous lui avez consacré un livre. Au final, quel est le sport qui vous intéresse en ce qu'il permet sur un plan littéraire?
L'athlétisme, certainement. L'athlétisme, bon, c'est le 100 actes divers, 20 disciplines aux quatre coins du stade. C'est magnifique. Moi, je trouve que. Et en plus, chaque discipline de l'athlétisme correspond un petit peu à une douleur corporelle. Le lancement du javelot, vous voyez, le lancement du disque, le triple saut, le 110 mètres haies. C'est le corps en mouvement, c'est des algies, c'est des douleurs. C'est sans doute.
Je parlais sur le plan littéraire et non pas sur le plan médical.
Ah, mais moi, c'est la même chose pour moi. Pour moi, c'est la même chose, la scoliose, la virgule, l'ellipse ou la méningite, c'est la même chose. Pour moi, littérature et médecine ne font qu'un.
Mais on a plus écrit sur le cyclisme que sur l'athlétisme, parce que je fais partie du prix Jules Rimet, qui décerne des prix tous les ans. Et tous les ans, on pourrait le donner à un livre sur une histoire de cycliste. Parce qu'il y a de vraies histoires, et je pense que les écrivains, les journalistes se branchent plus facilement sur ce sport-là que sur les sports co, où c'est plus compliqué de raconter une vraie histoire. Là, quand on a un personnage, ça marque toujours. Donc le cycliste.
Moi, je fais partie du prix Louis Nucera, qui est le prix concurrent du prix Jules Rimet. Et on a donné justement cette année le prix à quelqu'un qui racontait un voyage à la bicyclette.
Ouais, comme quoi, c'est toujours la bicyclette.
C'est toujours la bicyclette.
Ouais, la bicyclette revient souvent.
C'est plus dramatique. Hein. Ouais. C'est tout seul.
Manu Farine ?
Là, c'était pour une gymnaste cette année, non ?
Cette année, c'était pour une gymnaste.
Et la littérature américaine arrive à écrire de très bons textes littéraires sur des sports collectifs.
Oui.
Bizarrement.
Oui, oui.
Pourquoi bizarrement ?
Je ne sais pas, sur le basket, sur le foot américain, sur le baseball,
Même le baseball.
Je ne sais pas pourquoi ils y arrivent, eux, et on a plus de mal, nous.
Mais le deuxième, celui qui n'a pas été primé, ça s'appelait Petit papier perdu. C'était un Argentin qui a écrit ça, le titre, je ne suis pas complètement sûr. C'est sur le foot, sur l'histoire du foot en Argentine, avec un groupe d'amis, donc il y a en même temps l'amitié, le support, c'est le foot. Et il raconte comment ils ont fait pour essayer de revendre un joueur qui avait été acheté par un des quatre qui est décédé pour redonner l'argent à un groupe. C'est un bouquin extraordinaire qui m'a plongé, mais c'est une vraie réalité. Et c'était sur le foot. C'était une vraie histoire avec une amitié. Donc on peut aussi écrire
sur le foot. Benoît Lagan, dans Plume et Crampons, que vous aviez co-signé avec Benoît Emmermann, vous citiez beaucoup d'écrivains qui avaient écrit sur le sport et le foot. Et il y a ces dernières années comme un regain du sport comme motif littéraire. On passe à Jean Echenoz, Rose, François Bégaudeau, Tristan Garcia, Frédéric Roux, qu'on a reçu ici, avec notamment des romans qui ont pour motif la boxe. Comment vous expliquez ce long désintérêt, finalement ce retour aujourd'hui de la littérature autour du sport?
C'est-à-dire que il y avait une honte un petit peu pour l'intellectuel universitaire d'aller dans les stades. On enroulait le journal L'Équipe dans le Figaro ou l'Express. Il y avait quelque chose qui a duré jusqu'aux années 60-70. Il y avait vraiment une dichotomie entre les...
Alors qu'elle n'existait pas historiquement. Il y avait Tristan Bernard, Jean Giraudoux, Monterland et même Cocteau qui s'intéressaient.
Camus, Cocteau, voilà. Morand, Monterland, bien sûr, qui étaient des Nabokov, dans toutes les nations. Surtout beaucoup de poètes aussi. D'ailleurs, les poètes étaient souvent Gaules. C'est étrange, les poètes étaient gardiens de but. Enfin bon. Mais il y a quelque chose qui est quand même de l'ordre de la... Bon, une espèce d'abandon un petit peu d'une sorte de douleur physique à aller sur un stade, parce que c'est douloureux. Assister à un match, c'est quand même quelque chose qui fait mal, je veux dire, qui fait mal au corps, qui fait mal à l'échine, qui vous plombe la peau, qui vous vrille le coccyx. Enfin, si vous allez, je ne sais pas comment Raymond faisait à rester des heures sur sa planche, comme ça, sur le bord d'un... Ça fait mal aux vertèbres, aux longs vertèbres.
Je vous assure que...
Doit être en marmelade.
Que d'aller dans les vieux théâtres parisiens pour regarder une pièce, ça fait mal aussi, parce qu'on est tellement mal assis.
Le poulailler est aussi dur envie. Que le gradin.
Oh oui, c'est ça est mal installé.
Oui, mais peut-être que le répertoire est peut-être parfois meilleur.
C'est vrai. Raymond Domenech, puisqu'on parle actuellement juste là de théâtre et de littérature, quelle est la littérature qui vous a fondé? Quels sont les écrivains qui ont compté pour vous?
J'ai lu un bouquin extraordinaire sur le foot, je suis incapable presque de donner le titre et de donner l'auteur. Pour moi, ça n'a aucune importance. Quand j'attaque un bouquin, soit il me plaît et j'y vais dedans à fond, et donc je peux pas vous les citer. J'ai lu tout ce qui me passait par la main. Quand j'étais gamin, il fallait débiter des livres. En fait, c'était ça. C'était un concours de lecture.
Tout à l'heure, vous nous disiez que vous préfériez La Lanterne Rouge. La Lanterne Rouge me plaît plus que Le Maillot Jaune. D'où vient ce goût-là précisément? Parce que vous nous l'avez dit tout à l'heure, mais pourquoi aimer les perdants? D'ailleurs, c'est plus facile. Et d'où vient ce qui pourrait passer pour une posture?
Non, c'est pas une posture. Bon, quand on a choisi, c'est ce que je disais, d'être plutôt malade que médecin, et qu'on a choisi de passer sa vie dans les cabinets d'attente des différents praticiens, bon, on a plutôt tendance à défendre les adonymes, les sans-grades, les drop-out. Bon, moi, en littérature, c'est pareil. Je préfère les poètes délaissés, j'aime bien les écrivains effacés, les romanciers de troisième rayon. Bon, moi, j'ai aucun goût pour Gide, pour Camus, pour Claudel, mais j'aime Emmanuel Boeuf, j'aime Henri Calais, j'aime Raymond Guérin. Donc voilà.
Là, une période très précise, très précise de la littérature.
Les années 50.
Les années 50, 40-50 avec
50,
Emmanuel Boeuf.
Jusqu'à 58, jusqu'à la Coupe du Monde de Suède à peu près. Ça s'arrête là. Et après, bon.
Qu'est-ce qui se joue pour vous justement dans cette génération d'écrivains? Vous citez Guérin, Calais, Boeuf qui appartiennent tous à un même mouvement,
oui,
dans les années 30-40-50. Ouais.
Eh bien, c'était tout seul. C'est des individus qui sont seuls dans leur ville, qui sont seuls sur le trottoir au crépuscule, qui sont seuls devant leur whisky à la terrasse. Et c'est des gens qui essayent de soigner leur plaie, de soigner leur mère, de soigner leur douleur d'être au monde, et qui essayent d'aller jusqu'au bout de leur passage terrestre sans s'ébrécher davantage. C'est ça qui me plaît dans la littérature.
Dernière question. Dans Plume et Crampons, vous écriviez que jusqu'à la limite du hors-jeu, il est toujours possible de pousser la comparaison du style littéraire et du style footballistique.
Oui.
Une explication?
Oui, c'est vrai. Bon, j'avais fait un livre, Zatopek et ses ombres, c'était où je comparais le style des écrivains et le style des coureurs à pied. Par exemple, Proust, c'est Nurmi. Zatopek, c'est Céline. Ladoumec, c'est Marcel Aimé. Donc il y a vraiment quelque chose au niveau de la rondeur des enjambées, la façon de gratter le tartan. Et si on peut prendre des grands footballeurs, je ne sais pas, Van Basten, Puskás, Garrincha, et on peut trouver des écrivains qui correspondent à ces styles, à ces chaloupés Carioca, à ces cavalcades, on peut essayer de trouver. C'est un livre à faire, si j'ai un peu d'énergie.
Et vous, alors, quel serait le footballeur qui vous correspond?
Garrincha. Bien sûr, le petit moineau de désarticulé comme ça qui monte au ciel et puis qui tombe plus bas que le ruisseau pour une belle tombée d'un char fleuri et qui termine dans la panade. Garrincha est sans doute le grand footballeur du siècle.
Garrincha, pour vous, Domenech ?
Moi, Garrincha, j'ai vu une pièce de théâtre qui a été faite autour de Garrincha, qui était extraordinaire. Et tout le long, il nous explique Garrincha, il avait une jambe un peu plus courte que l'autre. C'est vrai qu'il dribblait, il partait toujours côté droit, tout le monde le savait. Et dans cette pièce, il monte tout ça avec cette histoire de Garrincha. Et à la fin, il arrive à nous faire pencher. Moi, je me souviens, j'étais complètement penché de l'autre côté. Et il dit, et voilà, et il a dribblé de l'autre côté. Et tout d'un coup, on se regardait comme ça, dit... Vraiment, il avait réussi, c'était un one-man show, c'était une pièce dont j'ai oublié le titre, qui devait s'appeler, je pense, Palo and Garrincha.
Ah, je pense aussi.
Mais je suis pas sûr, qui était fabuleuse, je ne l'ai pas revue après, mais je l'ai vécue. C'est-à-dire, c'est pas une pièce que j'ai regardée, c'est une pièce que j'ai vécue et le personnage était extraordinaire.
C'est un one-man show même. Qu'est-ce que c'est l'hypocondrie ? C'est un pénalty permanent.
Et entre-temps, je ne sais pas ce qui s'est passé.
Merci à nos invités. Raymond Domenech, Mondico, passionné du foot, apparu aux éditions Flammarion. Patrick Delbourg, mot d'excuse, les mots de l'hypocondrie, c'est aux éditions du Cherche Midi. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain...
Tu la mets, cette photo ? Pas trop l'air d'un con ?
C'est ta tête habituelle.
Demain, encore du sport, mais c'est Stade 2, le rendez-vous. Demain, terre battue et morale des ménages avec Olivier Gourmet et Stéphanie Cléo. La désannonce, Hippolyte.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Manu Farine, Benoît Lagan, Aïssatou Endoy et Hippolyte Babilote, journal de la culture Zoé Sfès, chronique Xavier Delaporte, à la prise de son Emmanuel Morse-Duncan et à la réalisation Thomas Beau.
On dit la belle Emmanuel Morse-Duncan. Il est 19h54, vous écoutez France Culture, mais c'est bien. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française.